France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Comme du temps de Louis XIV où elle rythmait la vie de la cour, la musique est aujourd'hui partout, faisant de chacun d'entre nous un élément d'un large public. Dans les salles de concert, à l'opéra, sur les scènes rock ou de musiques actuelles, mais aussi dans la rue, dans les gares, la musique se fait entendre. Ce public, volontaire ou pas, est-il homogène? Répond-il à des critères socio-économiques d'âge? Adopte-t-il un comportement unique face à l'événement musical? Peut-il guider la politique artistique d'une salle? Ces questions et bien d'autres ont fait l'objet d'une passionnante étude collective qui permet de comprendre qui est le public, ce public auquel, à un moment ou à un autre, nous appartenons. Les publics des scènes musicales en France, 18e, 21e siècle, sous la direction de Caroline Giron-Panel, Solveig Serre et Jean-Claude Yon, qui vient de paraître chez Classique Garnier. Début de l'ouverture de la Pivoleuse de Rossini, l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Fritz Reiner. Bonjour Caroline Giron-Panel et bonjour Solveig Serre.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux historiennes et musicologues et avec Jean-Claude Yon, vous avez donc dirigé cet ouvrage collectif qui convoque plusieurs disciplines et je crois qu'il réunit une vingtaine d'auteurs. Donc c'est une étude du public. Caroline Giron-Panel, vous commencez d'ailleurs avec un grand écart avec Patti Smith à la cathédrale de Bourges en 2013 et puis un flashback sur la Venise du XVIIe siècle, qui donne un peu l'ouverture de votre travail, savoir comment le public pouvait réagir à différents événements musicaux. Quel était l'objet, l'orientation principale de votre ouvrage? C'est vrai que jusqu'à présent, l'étude du public, on pense notamment aux travaux de William Weber, a été assez peu documenté. Il y a de nombreux travaux historiques qui permettent d'appréhender le goût, l'attitude du public selon les époques. Mais quel était votre but? Qui veut répondre? Caroline Giron-Panel.
Alors justement, ce qui nous intéressait, c'était bien d'étudier les publics dans toute leur diversité et la différence, ou plus exactement la spécificité, du ou des publics des scènes musicales par rapport aux publics d'autres types de scènes. en restant cantonné à la sphère française qui nous a déjà permis d'aborder un certain nombre de sujets et en ayant une approche interdisciplinaire. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous. On participait à cet ouvrage des historiens, des musicologues, mais aussi des sociologues, des spécialistes d'information et de communication, des spécialistes du langage. Et notre but était de réussir à appréhender ces publics, leur attitude en fonction des différents lieux, mais aussi évidemment du répertoire,
Bien sûr, oui.
Sur le temps long.
Et on imagine que du XVIIIe siècle à nos jours, évidemment, ce public a considérablement évolué, a éclaté en différentes catégories, d'autant plus que le répertoire, lui aussi, est de plus en plus large, enfin, me semble-t-il, Solveig Serre.
Oui, dans mes travaux sur l'Académie royale de musique, donc sur l'Opéra de Paris au XVIIIe siècle, j'avais été très étonnée quand j'avais analysé le public de constater que, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire aujourd'hui quand on va à l'opéra, ce public était extrêmement peu policé, qu'il se passait beaucoup de choses dans la salle, que quand un morceau plaisait, on faisait rouvrir le rideau et réinterpréter le morceau, que les gens parlaient, qu'il y avait de la lumière. Et alors que moi, je pensais au début de mes travaux que c'était quelque chose qui était cantonné aux scènes de musique actuelle. Donc l'idée aussi de ce colloque, parce que cet ouvrage est issu d'un colloque au début, c'était de réfléchir justement sur le temps long en éventuellement essayant de modifier les perceptions qu'on peut avoir aujourd'hui en tant que public d'une musique savante ou d'une musique populaire pour voir si il y a 4 siècles les comportements n'étaient pas différents et qu'est-ce que ça signifiait aussi en termes d'évolution de ces mêmes comportements. Notamment en ce qui concerne les frontières entre le savant et le populaire. Est-ce que la participation, par exemple, d'un public activement est un signe de musique populaire? Ben, apparemment non, vu qu'on le retrouve aussi au XVIIIe siècle dans un cadre très savant. Voilà, donc l'idée, c'était de s'interroger sur le temps long, sur la France, parce que sinon, il aurait fallu 8 tomes. Et effectivement, de manière interdisciplinaire, on aurait pu convoquer aussi des anthropologues, on n'en avait pas trouvé, pour la question des émotions liées à la musique. Voilà.
Sur la France, mais il y a un article aussi quand même qui fait un parallèle entre le public français, le public italien, le public allemand. C'est vrai qu'on a des images un peu caricaturales et on imagine un public allemand extrêmement sérieux, très attentif, et puis un public italien peut-être un peu plus dissipé. Qu'est-ce qu'il en est avec le temps? Est-ce que vraiment ces catégories que l'on peut imaginer ont perduré dans le temps ou au contraire elles ont évolué, elles ont pu même carrément se renverser?
Alors, Auguste Lager, qui est un professeur de déclamation lyrique, en 1874, consacre un chapitre de son ouvrage « Le chant et les chanteurs à une physiologie du public ». Et pour rebondir sur ce qu'on disait, il y a tout un tas de clichés, en fait, mais très intéressants pour l'historien. Alors, je cite pas tout, mais par exemple, le public de Bruxelles est le plus dilettante, celui de Naples le plus enthousiaste, celui de Rome le plus turbulent. Et pour la France, le public de Paris est le plus connaisseur, partant le plus indulgent. Le public de Bordeaux est le plus poli, le plus gentleman. Le public de Lille, le plus rationnel. Le public du Havre n'est pas exigeant du tout. Voilà, donc l'idée, c'était justement aussi de s'intéresser à ces spécificités non seulement françaises, mais éventuellement locales, pour voir effectivement, par exemple, il y a un article de Julie de Ramon sur les débuts à Toulouse, comment au Théâtre du Capitole, c'est le public qui crée en fait la célébrité. Donc c'était aussi d'analyser ces reconfigurations en fonction des territoires qui composent la France.
Et justement, est-ce que ce public, vous venez de le dire, Solveig Serre, à Toulouse, a pu donc constituer à la fois, par ses réactions, le répertoire, l'évolution du répertoire? Et est-ce que c'est un phénomène que l'on retrouve dans le temps, dans tout type de musique, aussi bien sur les musiques actuelles? Ou est-ce que c'est un phénomène qu'il faut analyser vraiment répertoire par répertoire? Caroline Giron-Panel.
C'est une question un peu délicate. Je pourrais vous répondre en allant même à l'intérieur même du répertoire, en citant Mozart, qui va adapter ses opéras aux salles dans lesquelles ils vont être joués, qui va écrire des airs spécifiquement pour le public d'une salle donnée. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve sur le temps long et évidemment aussi hors de France. Cela étant, notre ouvrage ne répond pas à toutes ces questions puisque on a vraiment eu une attitude pionnière en abordant ces questions-là de façon transdisciplinaire. Ce qu'on voulait faire, c'est essayer d'aller au-delà des stéréotypes, d'interroger ces stéréotypes dont Solveig vous a donné un florilège, et d'essayer aussi de sortir un peu de notre zone de confort. Par exemple, on a fait intervenir un représentant des pompiers de Paris qui nous a parlé de la façon dont on gérait la sécurité dans les salles de spectacle. C'est des choses qu'on trouve assez rarement dans les ouvrages universitaires. On s'est intéressé aussi à l'assurance de ces salles de spectacle. Donc vraiment, étudier cet objet, le public, à travers une multitude d'angles pour ouvrir des voies qui seront, nous l'espérons, arpentées par d'autres.
L'ensemble Ictus interprétait le début de INSEE de Terry Riley Solvexer, un article qui est consacré au public de la musique dite contemporaine avec une étude sur le festival d'automne. Quand on veut justement appréhender un tel public, quel genre de données a-t-on, sur quel genre d'outils peut-on se reposer et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on arrive à justement identifier ce public? Est-ce que le public de la musique contemporaine a une spécificité de CSP, d'origine géographique?
Alors, il y a des enquêtes régulièrement qui sont faites en France là-dessus, sur les publics de la musique, qui sont plutôt factuelles et pas tellement interprétatives. Il semble qu'effectivement, les publics de musique contemporaine soient quand même à l'image des publics de musique classique, on va dire, c'est-à-dire pas très jeunes, c'est-à-dire souvent, effectivement, des gens qui sont des cadres supérieurs. Il faut dire que c'est souvent de la musique qui nécessite une écoute pointue et une adaptation des oreilles qui est pas forcément évidente pour n'importe qui. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple comment aussi les compositeurs peuvent jouer de ce public de musique contemporaine. Je pense ce matin à 433 par exemple de John Cage, qui est clairement fait pour susciter une réaction du public qui est très gênée. Il y a beaucoup de rire dans la salle quand on lit les témoignages. Les gens ne savent pas du tout comment faire. Et on voit clairement que le but de Cage, au-delà de l'expérience sur le silence impossible, est aussi de faire réagir ce public qui, justement, n'est pas très réactif en temps normal parce que il y a toutes les représentations de la musique contemporaine comme hyper savantes, donc à écouter hyper calmement, de manière très silencieuse, sans participation. Voilà.
Ce qui n'était pas le cas avant, Caroline Champanel. Alors ça, c'est de la musique dite classique.
Ça, c'est quelque chose que nous avons trouvé particulièrement intéressant, c'est-à-dire la participation du public. On a aujourd'hui l'image du concert comme un lieu avec une certaine liturgie, un public qui se tient bien, qui ne fait pas de bruit, qui va écouter attentivement et effectivement, comme le disait Solveig Serre, ne pas participer. On sait qu'autrefois, c'était tout à fait différent, hein. C'est-à-dire que le public était invité à participer et à montrer son enthousiasme et son appréciation, ou non d'ailleurs, de ce qui se passait sur scène. Et ce qui limite d'ailleurs la différence entre musique populaire et musique savante, qui n'était pas aussi marquée au XVIIIe siècle, par exemple, que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, où l'opéra, par exemple, n'était pas du tout considéré comme de la musique savante et réservé à une élite disposant d'un capital culturel particulier. Mmh. On a des exemples cités dans le livre de publics qui vont lancer des bougies enflammées depuis le poulailler sur les chapeaux des dames au parterre en espérant les voir s'enflammer. Qui sont par ailleurs des gens qui apprécient cette musique, qui ne viennent pas au spectacle pour faire du barouf, mais bien pour écouter la musique, ce qui ne les empêche pas d'avoir une attitude qui serait aujourd'hui totalement inacceptable.
Mais si on arrive à cerner, ou en tout cas anticiper les réactions du public, est-ce que ça ne biaise pas un peu les choses et le compositeur, ou je ne sais pas, ou le directeur de salle, va orienter sa programmation ou sa musique, s'il s'agit du compositeur, en fonction des réactions supposé du public. Ça, je pense que c'est valable pour tous les répertoires.
C'est l'impossible question du goût musical. On ne sait pas s'il est provoqué par, s'il est impulsé par une salle ou s'il répond au goût du public. C'est sûrement une conjonction des deux. Plus aussi avec les contraintes économiques qu'on connaît sur le spectacle vivant, qui est un spectacle qui coûte cher et que donc on ne peut pas non plus tout reprendre. Mais de fait, on voit bien dans les répertoires qui se construisent au fur et à mesure des siècles, hein, parce qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas encore de répertoire construit, qu'il y a toujours un petit quota d'œuvres qui plaisent, dont on sait qu'elles sont économiquement rentables et qu'elles vont répondre au goût du public. Mais aussi, si on veut être un peu audacieux, il faut aussi être capable de programmer des œuvres qui font pas forcément plaisir au public, justement, parce qu'elles sont difficiles, par exemple, à écouter. Mmh. Voilà, c'est le goût musical, c'est une question qui est très compliquée, mais c'est clairement une conjonction de multiples facteurs.
Mmh. Au-delà de cette question esthétique, est-ce que, au cours de ce travail collectif, vous avez découvert une dimension peut-être plus politique du public dans face à la musique ? Caroline Giron,
oui, absolument. Alors, avec cette question, je pense évidemment à ce qui s'est passé à l'Opéra de Rome, hein, en mars 2011, lorsque une nouvelle production de Nabucco de Verdi a été mise en scène. On est dans un contexte spécifique de l'Italie de Berlusconi, dans laquelle la culture n'était pas forcément mise au premier plan. Lors de cette représentation du 12 mars 2011, le maire de Rome a prononcé un discours liminaire qui dénonçait l'incurie culturelle de son propre camp. Le public lui-même a eu une action réelle, puisque des tracts ont été jetés des dernières loges qui disaient « L'Italie doit renaître dans la défense de son patrimoine et de sa culture ». Et puis à la fin du Chœur des esclaves de l'acte 3, Riccardo Muti a été applaudi. Le public a réclamé un bis. Riccardo Muti n'avait bissé qu'une seule fois dans sa carrière ce morceau. Il a accepté de le bisser à nouveau, à condition que le public se joigne à lui et en précisant que ce bis serait dédié à un autre Risorgimento, celui de la culture, je le cite, qui seul a fait l'histoire et l'unité d'Italie. Donc on a vraiment là une attitude politique du public sur une œuvre elle-même politique, puisqu'elle a été créée dans le contexte que l'on sait, hein, qui est encore d'actualité. Thank you.
Miles Davis, c'était un extrait de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud. Il y a un article justement qui est consacré au public du jazz, public vieillissant, apprend-on, et le public des musiques actuelles. Solveig, c'est vous qui connaissez bien ça.
Mais c'est un public qui est participatif depuis toujours. Ouais. C'est un public, en fait, il n'y a pas beaucoup de distinction entre la salle et la scène. Le cas le plus typique, c'est celui du punk, où par exemple, on pogote, on monte sur scène et on se rejette dans le public. Mmh. Donc il y a une communication, en fait, entre la salle et la scène que la musique savante a perdue. On n'imaginerait pas du tout ça. On imagine ça difficilement, voilà, aujourd'hui. Alors après, avec des comportements quand même qui sont sectorisés dans la salle de concert, on sait bien que les quelques premiers rangs, c'est les travaux de Wendy Fonaro qui ont très bien montré ça, les quelques premiers rangs sont très participatifs et écoutent attentivement. Mmh. Derrière, c'est des gens qui écoutent mais qui veulent pas bouger, qui veulent pas s'impliquer corporellement souvent parce qu'ils ont peur du danger potentiel que ça peut représenter. Mmh. Et il y a le troisième cercle, celui qui est au bar, on va dire, qui lui va et vient et discute. Voilà, ça a bien été montré pour les scènes de musique populaire. Mais je crois que la constante de tout ça, indépendamment de populaire savant, c'est la question des émotions qui courent indépendamment du style de musique, du genre de musique, donc que ça soit savant ou populaire, l'émotion reste vraiment le moteur de ce public qui est mu par l'émotion quand il se rend au spectacle. Ouais.
Caroline Giron-Panel, on apprend aussi que, évidemment, le lieu dans lequel se déroule le public a une incidence. Vous avez beaucoup travaillé sur la musique dans les églises. Et qu'est-ce qu'on apprend alors justement?
Alors la musique a toujours été présente dans les églises, puisque bien sûr elle porte la prière. Mais moi j'ai travaillé sur les cas particuliers dans lesquels les églises étaient des lieux de concert et non pas dans lesquels la musique était détachée de la liturgie. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que dès le XVIe siècle, des questions se posent par exemple sur le fait de la présence du pain eucharistique ou pas. Est-ce qu'on doit vider le tabernacle avant le concert? Et puis on voit qu'il y a une volonté de transformer l'espace pour marquer que ce n'est plus l'espace de la liturgie, mais bien l'espace du concert. Par exemple, on va enlever les bancs pour les remplacer par des fauteuils, ou on va tourner différemment ces fauteuils, non plus vers l'autel, mais vers une scène. Et ce sont des questions qui se posent tout au long de l'époque moderne et de l'époque contemporaine, puisque les musiques sont encore aujourd'hui des lieux de concert, et ces questions se posent de la même façon. Je voudrais rebondir sur ce que disait Solveig tout à l'heure, sur la participation du public, puisque aujourd'hui, on voit que dans certains cas, y compris dans les musiques dites savantes, le public demande à participer. Je pense à une mise en scène du Don Giovanni de Mozart à l'Opéra du Rhin en 2019, au cours de donc une mise en scène très moderne avec des références à Marina Abramovic et à la culture populaire, notamment à Shining de Stanley Kubrick, où le public était invité à participer dans la salle, mais aussi sur scène, puisque les abonnés avaient pu recevoir une invitation spécifique pour participer au banquet qui faisait partie de intégrante du spectacle. Donc on voit que cette volonté de participer du public est encore présente aujourd'hui, même dans les musiques savantes.
Oh, cet œil troublant et sévère et fixe comme un œil de chien. J'ai su depuis qu'il est en fer. À part ça, elle était très bien, très bien. Son organe était molle mais tendre. Quant à l'esprit, elle avait dû, j'en suis sûr, en avoir à vendre. Sans doute elle l'avait vendu. Elle était pas mal étoffée, avec un stomac comme le sien. Il lui manquait plus que d'être truffé. Ah, à part ça, elle était très bien, très bien. Quoi qu'elle parlât avec emphase, on y tirait facilement des cuirs qu'elle faisait dans une phrase, de quoi chausser un régiment. Quand elle parlait à sa bonne, à propos de tout, et même de rien, elle lui citait du cambronne. Oh, à part ça, elle était très bien, très bien.
Il Yvette Guilbert, elle était très bien, ce qu'on aborde aussi le répertoire du Café Concert dans votre ouvrage. Un dernier mot, on continue à évoquer ce fantôme, c'est-à-dire le public aujourd'hui. J'ai mentionné en introduction les pianos dans les gares, mais je crois je suis même certaine qu'ils ont disparu, Solveig.
Oui, ils ont été supprimés au début du confinement. Et je pense que la question du public, on ne le savait pas quand on a fait cet ouvrage, est plus que jamais d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, en fait, d'aller écouter de la musique. Il y a des expériences qui vont être lancé là dans les prochains mois pour voir si on peut à nouveau se réunir. Mais ça rappelle en cette question, en cette période de pandémie, que la musique reste n'a de sens que si elle est jouée en public, parce qu'elle crée du lien et des émotions. On en revient toujours à la question des émotions. Et que donc, la seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est qu'il y ait à nouveau du public pour aller écouter toutes les musiques.
Très bien, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Caroline Giron-Panel et Solveig Serre, que vous avez co-dirigé avec Jean-Claude Yon, qui vient de paraître chez Classique Garnier. Les publics des scènes musicales en France, 18e, 21e siècle. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Excellente journée à l'écoute de France Musique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.